Merci beaucoup, chers membres du comité, mesdames, messieurs. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup aussi pour l'excellente collaboration depuis dépassé 2 ans avec Gabriel Jonin et puis Paul-David Porter dans ce contexte très intéressant du don d'organes lié à l'assistance du suicide. Je vais donc me permettre de vous parler. Voilà. Il n'y a pas de sous, mais on va essayer de s'en sortir. C'était un travail que je vous présente qui a été fait au sein de Suisse Transplant. J'ai eu une collègue qui a fait sa thèse de master en médecine là-dessus. On a collectionné toutes les données des pays européens, mais aussi du Canada, qui ont déjà établi ce système. Et puis, j'aimerais vous donner un peu une idée du contexte dans lequel on est actuellement au sein de Suisse Transplant avec les professionnels des hôpitaux dans cette démarche très, très importante. Vous avez entendu, et puis c'était ça la base de la discussion, au sein de cette discussion, c'était toujours l'autonomie du patient. L'autodétermination, c'est quelque chose de clé, et puis ça, c'était très vite un aspect très, très important dans nos débats en interne, comment on veut donc mettre en place ces demandes pour pouvoir peut-être à l'avenir combiner l'assistance au suicide avec un don d'organes. On a vu aussi en Romandie, il y a une augmentation nette des demandes dans ce contexte. De plus en plus, les membres d'Exit demandent aussi s'il y a la possibilité de donner des organes. Moi-même, je suis confronté à des téléphones, des gens qui ont pris la décision de l'assistance au suicide, qui veulent être donneurs d'organes, ce qui n'est pas possible. Aujourd'hui, vous pouvez faire un don vivant, un rein, mais on ne peut pas donner les organes dans ce contexte. De l'autre côté, on est très conscient qu'on a une pénurie d'organes en Suisse. Il y a un besoin d'organes. Il y a dépassé 2000 patients liste d'attente en Suisse l'année passée, presque 100 décès à l'année. Alors, il y a un besoin net, naturellement, pour ces organes. Quelle est donc la situation actuelle si on parle du don d'organes associé avec l'assistance au suicide? On parle d'un don à cœur arrêté. C'est une modalité qui a été relancée en Suisse en septembre 2011. On avait une loi de transplantation qui a été mise en rigueur 1er juillet 2007, où cette modalité du don n'était pas très précise, pas très claire. Il fallait retravailler sur la loi. Et puis en septembre 2011, on a pu relancer ça. Et ce qu'on a vu dans les pays voisins, dans les pays européens, c'est un sujet qui a été lancé très, très activement. Les Pays-Bas, mais aussi l'Espagne, la Belgique ont très vite avancé. Aussi le Canada, depuis 2016, cette possibilité est donnée. Si vous regardez comme exemple l'Espagne, qui a commencé en 2022, il y avait 7 donneurs qui ont donc fait un don d'organe dans le contexte d'un suicide assisté, 42 en 2023, et puis j'ai demandé les chiffres de 2024, c'est 63, alors ça augmente. Il y a donc un potentiel important là, dans ce contexte. Quels sont donc un peu les points de ce don? Je ne veux pas vous ennuyé avec de la médecine. J'aimerais quand même vite parler de cette possibilité. Vous voyez là les catégories dans lesquelles on sous-somme ces donneurs. Vous voyez la catégorie 3, c'est des patients qui ont un très mauvais prognostic aux soins intensifs où on décide de faire un arrêt thérapeutique. Et puis là, dans ce contexte, déjà aujourd'hui, on procède avec ce don. L'année passée, c'est la première fois qu'on a eu plus de donneurs décédés en provenance de cette catégorie que des patients en mort cérébrale. Et puis, pour vous donner une idée, sur les 4000 décès à l'année aux soins intensifs en Suisse, presque 2/3 sont des arrêts thérapeutiques. C'est le moment où le pronostic est tellement mauvais que l'équipe médicale vous approche et puis vous signale que dans ce contexte, il faut donc faire un arrêt thérapeutique, qu'on n'a pas d'option de soigner le malade. Alors ça, c'est une technique très établie en Suisse déjà. Il y a la catégorie 4, c'est des patients en mort cérébrale qui ont une défaillance complète et irréversible du cerveau, qui font un arrêt cardiaque. Et vous voyez que dans cette catégorie, il y a déjà la catégorie 5. C'est donc là un don d'organes après une assistance au suicide, terminologie qui était lancée par la Belgique. Je vais vous montrer un peu les chiffres pour 2023. Vous voyez donc en bleu clair les organes, les donneurs qu'on a eu en Europe en 2023, qui étaient des Maastrichtois, où on a fait un arrêt thérapeutique. Et puis vous voyez que là, il y a quand même déjà eu 139 donneurs en Europe après assistance au suicide en 2023, sur lesquels on a prélevé les organes. C'est donc des patients en provenance de l'Hollande, de la Belgique, de l'Espagne et du Canada. C'est très compliqué si on regarde la terminologie. Franchement, moi j'ai une autre appréciation pour vos travaux, vos travaux que vous faites, votre engagement, mais c'est très très compliqué. Puis vous voyez là très bien que cette terminologie, elle est très délicate. Vous avez l'assistance au décès, où en principe on raccourcit la vie d'une personne. Vous avez l'assistance active au décès, ce qui est interdit en Suisse. Et vous avez donc l'assistance active indirecte où on essaye avec des médications de soulager la souffrance. Et vous voyez là, la modalité qu'on a, c'est donc l'assistance passive au décès. C'est qu'on décide d'arrêter le traitement médical, on fait un arrêt thérapeutique et on laisse la patiente, le patient mourir dans le contexte d'un très mauvais pronostic. Et puis vous avez donc le suicide assisté, comme il se pratique en Suisse. On met à disposition un moyen ou une prescription d'une substance létale. Si vous regardez un peu la situation dans les pays qui s'entourent et comment ça se déroule, ça c'est le schéma comment on procède. Je vais tout de suite raccourcir ça, alors si c'est très petit, ne vous faites pas de soucis. En principe, on prend la décision de faire un arrêt thérapeutique, le pronostic est mauvais, et puis à la suite, si on a l'accord de la famille, les organes sont attribués. Le malade, le patient, il est transféré en salle d'opération. Là, on procède à l'extubation, on donne des médications qu'il n'y a pas de souffrance, et puis on attend jusqu'à ce que la pression chute et puis que le patient fait un arrêt cardiaque. À ce moment-là, vous vérifiez que le cœur n'éjecte pas de sang, et puis après 5 minutes, deux médecins, souvent des intensivistes et neurologues, confirment le décès, et à ce moment-là, on peut prélever les organes, et puis là, je parle du cœur, des poumons, du foie, des reins, et du pancréas qui sont prélevés en Suisse depuis le relancement de cette technique. Pour raccourcir ça, vous avez donc la décision de l'arrêt thérapeutique, l'arrêt cardio-circulatoire, vous avez plus d'activité électrique, vous avez plus d'activité mécanique, et puis après au moins 5 minutes, il y a la constatation du décès, et puis à ce moment-là, vous pouvez donc procéder au prélèvement d'organes. Ce prélèvement, il est assez compliqué, il est assez technique, mais je veux quand même vite vous montrer. C'est la façon comme on prélève ici sur Genève. Si le patient est décédé, vous mettez des cathéters dans l'anche, vous reperfusez les organes abdominaux, et puis après 2 heures, vous commencez à prélever les organes pour les transplanter. Ceci nous aide à remettre en fonction surtout le foie, mais aussi les reins qui ont beaucoup souffert dans la phase du décès, de l'agonie, parce que les organes étaient mal perfusés, peu d'oxygène. Et puis avec cette technologie, on peut donc prélever des organes de bonne qualité. Quelles sont donc les bases légales internationales? Et puis là, c'est très intéressant, si on regarde, c'est partout différent. Si vous voyez le Canada, il y avait une loi qui a été mise en rigueur en 2016, en Belgique en 2002, et puis aussi aux Pays-Bas en 2002. Ce que vous voyez là très bien, qu'en Belgique, on parle d'une mort naturelle, tandis qu'aux Pays-Bas, on parle d'une mort non naturelle. Et ça, ça fait une grande différence si vous avez donc cette définition dans les lois. En Suisse, c'est aussi une mort non naturelle, alors ça implique que le procureur rentre en scène, et puis on a les discussions et les problèmes liés à la définition juridique. Pour mettre en place, c'était important qu'il y avait beaucoup de directives. Moi-même, j'ai réalisé au sein de Suisse Transplant que j'ai jamais vécu des discussions aussi émotionnelles avec les soignants, avec les médecins, mais aussi avec des éthiciens. On a pu, grâce à Paul David Potter, qui nous a fait une excellente présentation, on a pu clarifier un peu la situation, on a bien compris comment ça se déroulait, mais ces directives sont internationales, et puis chaque pays qui a donc établi ces structures, a beaucoup travaillé à faire des descriptions et des directives pour aller d'avant avec ce processus. Si on reprend ça, vous avez donc dans le cadre juridique l'autonomie de chacun, chacune d'entre nous. qui est le point le plus important, mais vous avez quand même une base légale dans la Constitution et vous avez le code pénal avec l'article 114-115. On avait des juristes qui nous ont conseillé. Et puis là, si vous regardez l'article 115 du code pénal suisse, c'est effectivement le suicide assisté n'est interdit que s'il est pratiqué pour des motifs égoïstes, c'est-à-dire à cette base excite à l'autorisation de procéder à ces suicides assistés, mais comme vous voyez, il est considéré comme un décès extraordinaire. Et puis dans les discussions qu'on a eues, c'était là où on a le problème, parce que finalement, ça nous oblige de annoncer le décès au procureur, ce qui pose des problèmes dans le contexte du don d'organes. Quels sont donc les défis juridiques? Il y a cette exigence d'inspection légale, comme je vous ai mentionné, on a réalisé que c'est compliqué. Vous ne pouvez pas, après le décès, vous ne pouvez pas faire l'inspection légale parce qu'il y a une urgence de prélever les organes. Et puisqu'on a très vite réalisé aussi qu'il y a des grandes différences cantonales. Tout dépend de l'interprétation du procureur, comment aller d'avant. Et puis là, on a réalisé que c'est très compliqué de mettre en place un processus standardisé. L'inspection légale, elle est exigée, ça c'est dans la loi. Pour nous, c'est la question à quel moment on doit faire ça. Effectivement, sur les donneurs à cœur arrêté qui décèdent aux soins intensifs, on fait un téléphone au procureur, on a l'autorisation qu'on a décidé de faire un arrêt thérapeutique. Ceci est quand même assez complexe parce que tout ça dépend de l'évaluation et du jugement des différents cantons. Quelles sont donc les solutions juridiques qu'on a vues dans ces discussions? On pourrait réfléchir d'une forme spéciale pour le suicide assisté. On pourrait simplifier ce processus, mais là, les juristes nous signalent que c'est quand même assez risqué de créer une législation spéciale, peut-être non souhaitée. Information et documentation préalable du procureur pour ne pas rentrer dans une inspection légale après le décès. Là aussi, les juristes nous signalent, il pourrait quand même avoir le ministère public qui pourrait se sentir obligé d'empêcher le suicide. Alors là, c'est compliqué de trouver la démarche pour aller d'avant. Et puis, on pourrait aussi réfléchir d'évaluer l'interprétation correcte de l'article 253. Mais là, je vous confirme que ça va prendre des années, je dirais des décades, jusqu'à ce que les juristes, je regarde le président, nous font un retour pour aller d'avant. Quelles sont donc les considérations éthiques dans nos débats? Ce qui a vraiment fait foi dans cette discussion, c'est l'autonomie du patient. Essentiellement, les éthiciens, les théologues ont clairement signalé que c'est le patient qui décide, c'est l'autodétermination, l'avis du médecin, des soignants, ça ne nous regarde pas, ça ne nous concerne pas. Ce qui est très important, on doit avoir absence de pression, ce qu'on devrait attendre. En tout cas, pas que quelqu'un dit « moi, je voudrais donner mes organes », alors l'assistance au suicide, c'est le chemin pour donner des organes, ça doit être clairement séparé. Alors, il y a la décision pour l'assistance au suicide, et puis le don d'organes ne peut pas être le motif de rentrer dans cette discussion. Et puis, le souci qu'on a, c'est en principe aussi la confiance sociale. Je ne veux pas vous cacher que le conseil de fondation de Suisse Transplant était très, très restreint de rentrer en matière, de commencer à discuter ça. C'est qu'après une deuxième reprise, qu'on a commencé à voir comment on peut mettre ce processus en place. On voulait éviter des discussions dans le grand public. Si on nous attaque maintenant, vous allez même approcher ces clients d'Exit pour augmenter le taux de don d'organes. Quelles sont donc les mesures de protection? C'est clair, il faut contrôler ce processus. On a longtemps discuté à quel moment on peut aborder le sujet. Ce qui est très, très important, le client ou le patient, il a toujours le droit d'arrêter le processus. Ça, c'est important à savoir. On a aussi discuté, si vous venez pour une assistance au suicide et puis vous savez qu'il y a déjà 4 receveurs quelque part en Suisse dans l'hôpital qui attendent l'organe, c'est très, très important qu'il n'y a pas de pression, qu'à chaque moment, on peut arrêter le processus. Souvent, malheureusement, nos receveurs doivent rentrer parce que même dans le contexte d'un arrêt thérapeutique, les patients ne meurent pas dans les délais nécessaires. Il se peut que l'organe n'est pas bien, ne peut pas le transplanter. Alors là, c'est très important que si on va dans cette direction, qu'effectivement, dans ce contexte, on a le droit d'interruption à chaque moment. Et puis, comme je disais avant, il faut vérifier vérifier les motivations. Les motivations ne peuvent pas être le don d'organes, mais c'est donc l'assistance au suicide qui devrait faire foi. Si on regarde un peu les professionnels, c'était difficile. C'est en principe la charge émotionnelle. Je ne me suis jamais rendu compte que c'est tellement compliqué. C'est des valeurs, c'est des gens qui sont formés, qui disent « moi, je n'ai pas fait soignant, je n'ai pas fait médecin pour assister à un tel processus ». Il faut donc avoir aussi une sécurité juridique si on rentre en matière pour les professionnels. Et c'est clair que ces gens qui font ça ont besoin d'une formation spéciale en collaboration avec Exit pour pouvoir répondre aux besoins des patients. Si vous regardez un peu ces facteurs, il y a donc, comme je disais, des convictions religieuses, des soignantes qui disent « selon ma religion, je suis contre ça, alors je ne veux pas m'engager là », des valeurs personnelles. Un médecin m'a dit « je ne suis pas conducteur d'une locomotive, je suis médecin, je veux sauver des vies et puis je ne veux pas être engagé dans ce contexte », des standards éthiques et surtout des formations professionnelles. Ce qu'on pourrait s'imaginer, ce que vous avez vu, c'est des directives claires, des processus qui sont clairement détaillés dans des protocoles, des formations spécifiques et surtout un soutien psychologique. Ça, je pense, c'est important pour le personnel dans ce contexte parce que, comme à l'hôpital, on n'a pas l'habitude. Et puis, comme vous allez voir à la fin, c'est quand même un processus assez intense pour les équipes soignants comme médecins. L'autre problème, c'est la logistique hospitalière. Nous, on a approché tous les centres universitaires si, effectivement, ils étaient partants de se lancer. Je ne veux pas vous cacher que la Romandie était beaucoup plus libérale que les Suisses-Allemands. Désolé, moi, je suis Suisse-Allemand, mais j'ai quand même une grand-mère neuchâteloise. Alors, mais c'est plus compliqué en Suisse-Alémanique. Il faut avoir des directives internes. Je vous rappelle que Saint-Gall, dans le contrat, ils ont l'interdiction de procéder avec l'assistance au suicide. Alors, il faut changer les contrats, il faut beaucoup adapter. Et puis, ce qu'on a longtemps discuté, est-ce qu'il faut avoir la liberté de conscience? Des membres d'équipe qui ne veulent pas être engagés dans ce contexte, est-ce qu'ils peuvent se dispenser de ça? Et d'autres, oui ou non? Un débat qui était aussi mené au Canada, assez intense, on a commencé comme ça, mais on les a inclus maintenant dans ce système après des expériences les premières années. Quelle est la situation pour les receveurs? Ça, c'est quand même important. Là, on a réalisé que, en principe, le don d'organes, il est anonyme. C'est un don altruiste. Alors, il y a une liste d'attente. Les organes sont attribués selon les critères. On ne dit pas aux receveurs quelle était la cause du décès du donneur, de la donneuse. Alors là, on ne les informe pas. Et puis, ce qui compte, en principe, c'est la qualité d'organes. Alors là, dans les discussions avec les receveurs, ils étaient très ravis de cette idée, parce que je pense dans aucun cas ou dans des rares cas, on a quand même un consentement qui est aussi clair que dans le contexte d'une assistance au suicide. Et puis là, en principe, il y a eu de soutien de la part des receveurs qui n'ont signalé que pour eux, de savoir que l'organe est venu d'une personne qui souhaitait faire un don, même si c'était en assistance au suicide, c'était rassurant parce que cette personne était au clair comment cette procédure se déroulera. Quelles sont donc les prochaines étapes pour la Suisse? On continue dans le groupe de travail qu'on a constitué. On a un groupe des professionnels, un groupe d'éthiciens et juristes qui s'engagent dans ce contexte. On va avoir un avis éthique de la Commission nationale d'éthique qui va se prononcer. Je pense dans ce contexte, si on a un avis favorable, je pense aussi que les hôpitaux suisses-alémaniques vont aller d'avant. Et puis, on va donc travailler sur des directives. On a défini le processus avec Paul-David Porter et puis avec Mme Jonin pour aller d'avant, pour comprendre votre processus et de voir comment on peut le combiner avec la procédure du don. Les tensions éthiques, je vous ai déjà dit. Là, surtout les rôles médicaux, je voulais encore une fois souligner, c'était quand même impressionnant. Il y a des chirurgiens transplanteurs qui ont dit qu'ils vont arrêter à transplanter s'ils sont obligés des organes en provenance d'une assistance au suicide. Là, franchement, la discussion qu'on a menée au sein de Suisse Transplant a beaucoup calmé l'émotionnalité. Là, je pense qu'on a quand même maintenant en Suisse une acceptation assez importante pour cette discussion aussi parmi les professionnels. Ce que j'ai dit avant, c'était un sujet très intense. Quand il faut aborder le sujet, on veut éviter que des personnes décident d'une assistance au suicide. Et puis, on pense que d'abord, il faut régler ça. Et puis ensuite, on peut aborder le sujet du don, mais il faut éviter qu'il y ait quand même ce conflit. entre le souhait de faire un don d'organes et l'assistance au suicide. Alors, il faut vraiment bien séparer ce moment de la discussion sur le don. Comme je vous disais, l'avantage, c'est effectivement que le consentement explicite de la personne elle-même, et puis ça, je pense, c'est un aspect clé dans ce débat, il n'est jamais aussi bien que dans ce contexte. Je ne sais pas qui entre vous a une carte d'honneur, qui sait, qui savait comment se déroulerait un don. Je pense que dans l'assistance du suicide, les personnes sont prêtes au clair comment ça se déroule, peut-être même voir les sites où on va prélever les organes, ce qui est quand même très, très rassurant de savoir que même qu'on était pleinement conscient, on a donné l'accord pour cette procédure. Pour les professionnels, effectivement, je vous ai montré ça déjà, c'est les ans. Et puis là, pour les professionnels, il faut avoir la protection juridique, il faut donc travailler sur la loi, il faut avoir des formations pour qu'ils se rendent compte comment il faut se dérouler. Et puis ce qui est très important, c'est le soutien psychologique, le debriefing. Je vais vous montrer quelques séquences du Canada jusqu'à la fin de la présentation. C'était des spécialistes du don et de la transplantation, et puis beaucoup ont pleuré. On n'a pas l'habitude, on ne connaît pas. Franchement, non plus, je suis chirurgien. Et c'était très touchant de voir ça. Et puis, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Et puis là, on a besoin de votre soutien et de votre formation pour aller d'avant, parce que moi-même, ça m'a beaucoup touché de voir ces séquences de ce médecin du Canada qui était la première patiente au Canada qui a fait don d'organes dans le contexte d'un suicide assisté. La société, je pense qu'il faut la confiance dans le don, il faut la confiance dans le suicide assisté. Je pense que ça, c'est important. Il faut être transparent. Et puis surtout, il faut avoir le soutien aux proches, comme l'a déjà aujourd'hui dans le contexte des arrêts thérapeutiques ou dans un don, mais ça, c'est important à retenir. Les témoignages, qu'est-ce que disent les familles? C'est très positif. C'est le Canada et le Pays-Bas qui ont fait des études là-dessus. Les expériences des familles dans ce contexte sont très positives. Ils savent que c'était la volonté du défunt de donner ses organes. En principe, les perspectives des patients aussi très positives. Et puis, comme je vous ai signalé, les professionnels, en étant de plus en plus engagés dans ce contexte, prennent l'habitude et puis voient en principe aussi l'avantage dans ce contexte. Alors là, les témoignages sont en faveur de cette procédure et ça, c'est important pour pouvoir lancer une phase pilote dans ce contexte. Comme je vous disais, j'aimerais terminer avec deux séquences très courtes. C'était la première patiente au Canada, une médecin qui a décidé de faire un suicide assisté. Elle avait une maladie neurodégénérative. C'est deux séquences assez courtes. Je pense que si on a assez de temps, je vais vite partager ça avec vous.